Bonsoir à tous, Morgane Guiriec en votre compagnie. Il est 18h05 temps universel, l'heure de votre avis, l'émission qui donne la parole aux auditeurs. Gros plan sur les médias, à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse, ce vendredi 3 mai. À l'échelle mondiale, le nombre de pays où les journalistes peuvent exercer leur métier en toute sécurité continue de se réduire et l'Afrique subsaharienne n'échappe pas à ce recul. La haine contre nos confrères, les attaques contre les journalistes d'investigation, la censure, notamment en ligne et sur les réseaux sociaux, ainsi que le harcèlement économique et judiciaire continuent de miner notre profession. C'est ce que rapporte Reporters sans frontières. Des changements positifs sont toutefois à saluer dans plusieurs pays africains, comme l'Éthiopie notamment. Comment se portent les médias dans votre pays? Nous attendons vos commentaires. Pour ceux qui ont laissé leur numéro sur la page Facebook de VOA Afrique, nous commençons dès maintenant à vous appeler. Et pour les autres, vous pouvez participer en direct au 001 202 205 26 33. Premier auditeur ce soir, Hassan Omar. Bonsoir Hassan.
Bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs et bonsoir aux journalistes de la VOA. Et bonsoir à travers vous, bonsoir à tous les journalistes et bonne fête.
Merci Hassan. Alors vous êtes à Djibouti hein, et c'est un pays en Afrique francophone qui est extrêmement mal classé sur le classement RSF. Pourriez-vous nous dire comment ça se passe chez vous?
Je dirais en général c'est comme l'Afrique hein, sur le continent africain, la liberté de la presse est limitée. Et souvent, il n'y a pas de médias qui sont privés. Donc, même si ça existe, c'est souvent sur les réseaux sociaux, mais il n'y a pas, on ne trouve pas localement des presse ou des médias, soit que ce soit à la télé, la radio ou les journaux, donc qui sortent et qui sont indépendants. Donc, ces problèmes existent à travers l'Afrique et ça existe à Djibouti également.
Mmh. Mais dans ce contexte, comment est-ce que la population s'informe à Djibouti?
Mais souvent, les gens sont délaissés totalement à écouter voilà, les médias nationaux, surtout qui est pro-gouvernement. Donc, souvent, on s'informe à travers les réseaux sociaux et les gens sont connectés souvent. Et souvent, on y trouve des infos qui sont souvent, si on peut dire, fiables ou maîtres sur les réseaux sociaux.
Mmh. Mais sur les réseaux sociaux, il y a aussi beaucoup de fausses nouvelles qui circulent.
Oui, tout à fait, il y a les fake news, mais souvent les gens s'informent sur ça. Et même si le problème contraint nous aussi, il n'y a pas de liberté de la presse, les gens vont s'informer sur les réseaux sociaux. Et souvent, il n'y a pas de limite, voilà, les informations ne sont pas souvent vérifiées, et les fake news sont importants. Et on ne peut rien faire par rapport à il y a une dictature, donc c'est la face cachée. De la vérité et de la liberté. Donc, s'il n'y a pas de liberté, donc tous les canaux d'information sont fiables pour l'individu qui n'a pas d'information fiable.
Mmh. Merci beaucoup, Hassan Omar, pour votre contribution. On va maintenant laisser la parole à Bakary Keïta. Bonsoir, Bakary.
Bonsoir, Morgane.
Alors, Bakary, vous êtes dans quel pays?
Je suis à Bamako, la capitale malienne.
Alors, comment ça se passe au Mali en ce moment pour les journalistes?
Bon, d'abord, je vous souhaite une bonne fête.
Merci.
Et aussi, le métier journaliste est un peu vraiment traverse quand même des difficultés.
Oui.
Parce que il y a de cela des ans qu'un journaliste est porté disparu du nord de Birama Touré. Et tout récemment, un journaliste de la radio Nieta du nord de Rafidjal est présentement incarcéré. Vous voyez. Donc ça montre que le monde journaliste traverse quand même des périodes noires ici au Mali. Mais quand même, les journalistes s'efforcent quand même de nous informer à travers les radios, à travers les journaux. Vous voyez. Donc parce qu'il ne faut pas oublier la presse, là, c'est le quatrième pouvoir. Donc ils ont quand même une place indéniable vraiment à jouer pour la stabilité même du pays et pour informer vraiment la population vraiment lambda. Et aussi la presse conscientise beaucoup vraiment les Maliens, vous voyez.
Oui, parce
donc,
que...
Comme je l'ai dit,
Non, je disais oui. Finalement, les restrictions envers les médias affectent énormément les citoyens.
Effectivement, ça conscientise beaucoup vraiment les citoyens. Parce qu'il nous a dit quelque part, on peut tuer un journaliste, mais on n'arrivera jamais à finir avec le métier journaliste. Ça montre que vraiment nous, on vous suit vraiment dans votre mission vraiment exaltante, votre mission noble. Quand même, nous voulons que vous continuiez dans ce sens-là, parce que vous êtes quand même notre porte-étendard. Vous nous informez vraiment au mieux vraiment de vos moyens. Donc on est vraiment d'accord avec vous. Et aussi, on ne peut pas souvent faire. C'est souvent, le métier journaliste vraiment, a vraiment des conséquences. Si on prend, par exemple, l'exemple sur André Tisser, par exemple, qui est mort. Ensuite, il y a Yohan Soutan aussi. Ensuite, Robert Ménard. Vous voyez donc tout ça là. Donc, ça montre que vraiment, c'est un métier noble, mais souvent, il y a des risques là. Donc, on souhaite que vous-même, vous soyez quand même préservé de tous ces risques.
Mais alors, vous savez, hein, une des tendances qui a été observée au cours de l'année passée, c'est la haine vis-à-vis des journalistes. Et là, on ne parle pas des autorités, on parle du public, c'est-à-dire que les auditeurs, les téléspectateurs, les lecteurs n'ont plus confiance dans les médias et s'en prennent très souvent à eux. Qu'en dites-vous ?
Bon, ça c'est clair. Même si au Mali, si ça agit, c'est parce que pour la population lambda, les journalistes vraiment n'ont pas quand même quelque chose à défendre, mais ils font qu'ils disent la vérité. Souvent, en disant la vérité, ça touche vraiment tous les comportements de X ou bien Y. Donc, c'est cela qui pousse vraiment la population lambda à se révolter vraiment contre vraiment les journalistes, alors qu'ils sont vraiment dans leur rôle, vraiment de conscientiser, vraiment d'informer vraiment le peuple. Vraiment, je ne peux pas peut-être passer. Il y a certains journaux vraiment importants ici au Mali qui sont en train de faire de très bons efforts, notamment le Figaro de ABC. Il y a les reporters aussi de Kassim Traoré. Il y a les Sifins, même si l'auteur quand même se trouve en France. Et aussi, par exemple, c'est l'un de ces conditions qui fait que l'auteur du Sifins aussi s'est vraiment senti pour la France. Est-ce que vous voyez?
Oui.
Donc on est d'accord, vraiment on est d'accord avec vous. On souhaite que vous continuez vraiment sur cette lancée parce que tout métier a ses avantages et ses risques. Donc le métier journalisme, souvent vous êtes persécuté, souvent aussi vous êtes porté, vraiment vous êtes incarcéré. Et voilà, ça c'est le risque du métier. Mais cela ne doit pas vous amener vraiment à changer.
Merci en tout cas Bakary pour ces mots chaleureux et ce soutien. On va maintenant laisser la parole à un autre auditeur. Je ne sais pas qui j'ai au bout du fil, alors je vais vous demander de vous présenter. Bonsoir. Allô ? Bonsoir monsieur, on vous écoute. Alors, je ne sais pas.
Ah, ok, allô.
Oui, voilà. Alors, qui est au bout du fil? À qui avons-nous l'honneur?
Oui, c'est Mamadou Lamaranaba depuis New York.
Oui, Mamadou. Alors, la journée de la presse, vous êtes à New York, mais enfin, vous avez quand même une opinion sur ce qui se passe dans les pays africains?
Oui, aux États-Unis, ici, comme au continent africain. Oui. D'abord, je rends d'abord fervent hommage à tous ceux qui exercent ce métier de journalisme à travers le monde. Et aussi, je constate avec beaucoup de regret qu'il y a un net recul de la liberté de la presse en Guinée depuis l'arrivée d'Alpha Condé au pouvoir. Les journalistes qui exercent ce métier, ils ne sont pas du tout libres, surtout ceux qui essayent de rendre les faits tels qu'ils se déroulent sur le terrain. Et leur quotidien, c'est les harcèlements, les bastonnades, les emprisonnements et les intimidations. Donc, il faut, pour exercer ce métier en Guinée, il faut être du côté du pouvoir, faire les louanges du despote Alpha Condé. Et là, ceux qui font ça sont libres d'exercer leur métier partout sur le territoire de la Guinée. Donc, j'invite les Guinéens encore à resserrer les rangs et à mener le combat, puisque nul n'ignore ce qui se passe actuellement en Guinée. Et pour pouvoir libérer la Guinée, ce sont les Guinéens eux-mêmes qui doivent mener ce combat et libérer ce pays comme ce qu'avaient fait les Burkinabés, les Algériens et les Soudanais. Donc, au peuple de Guinée, vraiment, de resserrer les rangs et de garder leur divergence afin de faire face à leur adversaire commun qui est Alpha Condé, qui vraiment est en train de mener la Guinée dans une situation catastrophique, surtout à l'heure là où nous parlons, où il est en train de mener une campagne avec ses ministres pour une présidence à vie. Les journalistes vraiment ne sont pas du tout libres dans ce pays.
Très bien, merci beaucoup pour votre intervention. On va passer la parole à un autre auditeur. Ah, on nous dit qu'il n'y a pas d'autre auditeur, alors c'est bien dommage. Je vais peut-être pour prendre l'opportunité pour vous lire quelques commentaires qui ont été laissés sur Facebook. On a Gamvourn Daba Bourgeois, il dit « Cela est monnaie courante dans mon pays, le Tchad, où nous chantons liberté de presse. » Et à la fin, il n'y a rien. Les réseaux sociaux, qui sont devenus maintenant le moyen par excellence de s'informer, sont censurés. Archiduc Théodore de N'Djamena, les journalistes sont victimes des agressions, arrestations et tortures dans l'exercice de leur métier. La recherche de l'information est un traitement, puis une diffusion est devenue un métier de risque mortel, dit-il. La vérité est un aliment difficile à digérer. Alphonse Mbouaki, qui est en RDC, à Kinshasa, les médias en ligne, l'Internet et les réseaux sociaux sont coupés pendant les campagnes électorales et avant la publication des résultats des élections pour des motifs politiques. Effectivement, hein, c'est une idée qui a été développée aussi par Reporters sans frontières, hein, qui expliquait que au cours de l'année passée, on a observé beaucoup de restrictions des libertés de la presse à l'occasion de processus électoral. Alors, on a un autre auditeur qui est au Sénégal. Il s'agit de Thomas Sankara. Bonsoir. Ou Aruna Baldé. Bonsoir.
Oui, bonsoir. On parle de tous les deux, non, ça va. Bonsoir.
Alors, comment est-ce que se porte la presse au Sénégal? Apparemment, pas trop mal comparé à d'autres pays.
Bon, par rapport aux autres pays, bon, la presse sénégalaise, elle va mieux par rapport aux autres pays, par rapport aux pays voisins, surtout la Guinée. Bon. Bon, mais ici, au Sénégal, bon, seulement il y a le phénomène de fake news qui prend ampleur. Mais à part ça, il y a une liberté de la presse. Et surtout, le problème en est qu'aujourd'hui, le métier du journalisme, les journalistes devront être le quatrième pouvoir, mais les autorités étatiques, malgré, ils voient ça comme une sorte d'opposition, comme une sorte d'opposition, en fait. Mais tel n'est pas le cas. Les journalistes sont là pour porter la voix du peuple parce que le peuple est désavoué de ce qui se passe au sommet de l'État. Alors que les journalistes sont mieux placés pour dire aux populations qu'est-ce qui ne va pas. On a une chaîne vraiment que j'admire beaucoup, Walfa Diri. Je ne fais pas la promotion de cette chaîne-là, mais Walfa Diri, c'est la seule chaîne qui descend jusqu'au niveau des villages les plus reculés du pays pour montrer la réalité de ce que vivent les populations dans ces villages-là. Je crois qu'ainsi, on peut dire qu'il y a une liberté de presse.
Alors, je vais vous dire ce que j'ai dit à Hassan Omar tout à l'heure, hein, c'est que d'un autre côté, on observe que la haine contre les journalistes est grandissante. Le public reproche souvent aux journalistes de ne pas couvrir tel ou tel événement ou s'en prennent des fois verbalement et physiquement à eux. Comment le comprendre ?
Oui, vous savez, bon, nous sommes dans un contexte vraiment trop politique aujourd'hui. On voit qu'il y a beaucoup de journalistes vraiment qui se mêlent dans des affaires politiques. C'est pour cela maintenant, bon, la population, le peuple ne leur croit plus à 100% parce qu'il y a une coloration politique vraiment de haut niveau. On voit des journalistes qui sont nommés des fonctions publiques. Comment on peut vraiment avoir confiance à ces journalistes alors qu'ils feront le favoritisme du régime en place ou bien bon, une classe carrée, l'opposition? Que ça soit opposition ou au pouvoir, il va prendre part. Et c'est pour cela qu'ils n'ont plus vraiment cette confiance-là par rapport à la population.
Et quand vous voyez ce qui se passe dans les autres pays, par exemple le Burundi, le Tchad, des pays où la liberté de la presse est beaucoup plus en péril, qu'est-ce que ça vous inspire?
Bon, c'est une dictature du Tchad où l'Internet a été coupé à cause de les journalistes ont leur mot parce que quand le peuple est opprimé, le journaliste doit le relâcher, doit le dire. Quand les biens publics sont dilapidés, le journaliste il est le mieux placé à expliquer cela. Et on a vu ça aussi au Ghana, on joue type qui faisait vraiment son travail, qu'il a été abattu parce qu'il divulguait des informations vraiment qui fallait que les populations devraient comprendre, il a été tué. Je crois que tout cela, c'est une oppression qui a été faite à l'endroit des journalistes et qui n'a pas sa place vraiment au XXIe siècle.
Merci beaucoup, Harouna Baldé de Dakar au Sénégal. On part maintenant au Burkina Faso, un autre pays où la liberté de la presse se porte relativement mieux, en tout cas à l'échelle du continent. Charles Bako, vous êtes avec nous ?
Oui, merci en direct du Burkina Faso. Merci aux fidèles auditeurs de VOA.
Alors, Charles Bako, comment est-ce que vous jugez la liberté de la presse dans votre pays ? Est-ce que vous êtes satisfait ?
Alors, depuis la chute du président de l'ex-président du Faso, Blaise Compaoré, nous assistons au Burkina Faso à une quasi-liberté d'expression. Une liberté d'expression qui est beaucoup plus caractérisée, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, pas comme hier, les journalistes peuvent mieux s'exprimer comme ils veulent, ils peuvent évoquer tous les angles sans problème. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, c'est l'avenir du journaliste. C'est à saisir et faire passer des messages.
Alors, hier, en discutant avec mon collègue Bagassi Koura, qui est burkinabé, hein, il disait que si les journalistes avaient la possibilité de s'exprimer librement, il n'en demeure pas moins qu'il peut être assez difficile d'obtenir certaines informations, notamment auprès de l'armée, quand il s'agit des violences qui se passent dans certaines régions. Est-ce que vous avez le sentiment d'être suffisamment informé sur les violences qui se passent dans votre pays ?
Alors, il faut le dire, la tendance aujourd'hui, c'est de quitter le journalisme bureaucrate et saisir le journalisme d'investigation. C'est ce type de modèle de journaliste qui peut amener les journalistes à avoir toute information. Le sujet évoqué, c'est bien vrai, c'est bien beau, mais bon, il faut dépasser ces limites-là. Il faut risquer encore dans le métier et arriver à aller au-delà de la quête de l'information. C'est vrai, les gens sont timides, notamment les administrés, tout ce qui est institutionnel, ont toujours peur, on craint toujours les journalistes. Mais c'est aux journalistes de développer ces initiatives afin de pouvoir quitter cette sobriété et aller à la quête de l'information pour servir le peuple.
Merci beaucoup. Alors, nous avons un autre auditeur, Drichal, qui est en Côte d'Ivoire. Bonsoir, comment allez-vous ?
Oui, bonsoir, madame.
Alors, comment est-ce que se porte la liberté de la presse dans votre pays, la Côte d'Ivoire ?
Bon, la liberté de la presse, sur quel plan, par exemple ?
Eh bien, est-ce que les journalistes arrivent à exercer librement leur métier, par exemple ?
Oui, on peut dire oui. On peut dire oui. Ils arrivent quand même à s'exprimer souvent. Parce que vous voyez, quand on publie quelque chose dans les journaux, que ça plaît un parti politique, c'est bien, c'est bon. Mais quand ça ne plaît pas un parti politique, vous voyez que ça peut créer souvent des choses souvent que vraiment on peut pas trop décrire en tête, mais bon, comprenez un peu la chose comme ça, quoi. Donc vraiment, c'est pas facile, ce métier là c'est vrai que ils ont bien envie de travailler, mais je pense que quand on est journaliste, c'est tout ce qu'on voit, on doit être capable de décrire tout ce qu'on voit, je veux dire que comme les médias sont un peu, les médias c'est le quatrième pouvoir, je veux dire. Donc quand un truc se passe, eux-mêmes qui sont bien placés pour pouvoir publier certaines choses, mais bon, arrivé à un certain moment, vous voyez que, pas forcément Côte d'Ivoire, moi je prends du plan général.
Oui.
Voilà. Arrivé à un certain moment que le journaliste, il publie ses œuvres et puis après il est victime des représailles, vous voyez que c'est pas trop truc. Donc surtout en Afrique, c'est un peu ce cas-là. On vit un peu ces genres de choses-là. Mais pour l'heure, en Côte d'Ivoire, en tout cas, les journalistes quand même, ils publient des choses, ça va pour le moins. On peut pas dire ça va 100%, mais bon, ça va, en plus ça va.
Est-ce que vous avez l'impression qu'ils s'auto-censurent justement pour ne pas avoir de pression après coup ?
Bon, pression sur quel plan ?
Eh bien, par exemple, vous avez dit, hein, des représailles ou ça peut être des pressions économiques, perte d'emploi, etc. Est-ce que vous avez l'impression que ces journalistes, des fois, sont obligés d'adoucir leurs propos ?
Oui, effectivement, les journalistes, ils sont obligés, je peux dire, ils sont obligés d'adoucir, parce que je prends l'exemple, hein, on est en Afrique, hein, moi je suis par exemple au pouvoir, et que tu dis des choses, au départ je te laisse, mais avec ce moment, bon, voilà, il peut avoir des représailles, donc je pense que même s'ils ont envie d'exercer la métier, hein, ils ont bien envie, mais souvent, ils s'abstiennent un peu parce que ça peut arriver. Je ne dis pas que c'est fréquent, mais souvent ça peut arriver. Mmh. Voilà, ça peut arriver. Donc, c'est ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à bien, exercer, quoi. Ils n'arrivent pas à bien exercer parce qu'ils ont un peu peur souvent. Parce que quelles sont les garanties? Voilà.
Mmh. Mais écoutez, je vous laisse finir votre phrase.
Voilà, donc comme je disais là, c'est un peu. Il s'est dit quoi, si je publie un truc, est-ce que j'ai une garantie? Si je publie ça, est-ce que j'ai une garantie? Le journaliste, normalement, le journaliste, il a tendance à. Il est la voix du peuple, je veux dire. C'est-à-dire que tout ce que nous, on voit, les actions qu'on voit, des choses tortues, qu'on voit ceci par-ci, par-là, c'est lui qui est censé écrire dans un journal ou bien publier, je peux dire, dans certains ouvrages. Mais quand il sait que la personne n'est pas trop bonne, là, il est obligé de se retenir, hein. Ouais. Ça, il est obligé, parce qu'il sait que s'il publie ça, il peut avoir des représailles.
Voilà. Merci beaucoup pour votre intervention. On part en RDC et on a au bout du fil Kiza Kasongo. Bonsoir.
Oui, bonsoir, maman.
Alors, dites-nous, Kiza, comment est-ce que vous percevez le travail des journalistes en RDC? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont libres de couvrir ce qu'ils veulent?
Vraiment, le travail des journalistes est un peu bien dans notre pays, mais le pays étranger, concernant, comme vous, ici, la Voix d'Afrique, la Voix de l'Amérique, ici, chez nous, en RDC, vraiment, on n'a pas avec vous. Et concernant le BBC, les récits, vraiment, on a fermé ces radios-là, je ne sais pas, il y a quoi. Mais concernant ici, chez nous, en République démocratique du Congo, la presse est un peu bonne et les journalistes sont un peu libres. Mais dans d'autres pays, il y a ces difficultés-là qui approchent seulement les journalistes dans leur pays et le travail est un peu. Il y a beaucoup de difficultés dans le travail des journalistes dans d'autres pays concernant le Burundi, le Rwanda et autres pays comme la Voix d'Afrique ici chez nous, en RDC, ça ne tient pas vraiment.
Donc vous avez l'impression d'avoir toutes les informations dont vous avez besoin finalement?
Vraiment, j'ai besoin des informations concernant la radio La Voix de l'Amérique. Vraiment, en 2015, si je ne me trompe pas, 2015-2016, vraiment, la Voix d'Afrique était une radio aimable de moi. Vraiment, les jours comme les nuits, j'écoute la Voix d'Afrique, mais je ne sais pas quelle difficulté qu'on a trouvée pour que la radio soit fermée.
Ben écoutez, je vous remercie beaucoup. On va peut-être passer la parole à Charles qui est au Burkina Faso. Hein. Peut-être, qu'est-ce que ça vous inspire quand vous entendez tous ces différents points de vue et ces différentes situations en Afrique?
Alors, c'est émotif, tout simplement. On va dire que vive le journalisme dans le monde entier. On va appeler tous les journalistes à se remobiliser davantage pour refaire sortir la vérité sur toute la planète. C'est ça notre métier. On n'a pas d'autre métier que ça. Alors notre métier, c'est la vérité, uniquement la vérité, la recherche de la vérité. Alors unissons-nous davantage au nom de la vérité, pour la prospérité du monde et pour la prospérité de l'Afrique particulièrement.
Merci beaucoup. C'est ainsi, sur ces paroles pleines d'espoir, qu'on va fermer cette édition. À votre avis, ça passe toujours trop vite. Vous avez toujours plein de choses à nous dire. Merci à ceux qui ont suivi. Merci à ceux qui ont contribué. Au revoir.